professeur Didier Sicard, à l'origine de cette pandémie, au début de l'année 2020, on se souvient que la Chine a fait pression sur l'OMS, qu'elle a fait taire ses propres lanceurs d'alerte. Il y a eu, somme toute, assez peu d'enquêtes, en tout cas menées à leur terme, sur l'origine elle-même de l'épidémie. On a évoqué le pangolin, la chauve-souris. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui? Est-ce que cette enquête, elle a été, selon vous, correctement menée, donc sur les origines de cette pandémie?
Elle ne peut pas être menée parce que la Chine ne le veut pas. Et il y a eu un colloque vétérinaire et médical à l'Académie de médecine il y a 3 jours avec des Chinois. Alors, il y avait un clinicien chinois à langue de bois qui disait que c'était les Américains qui, dans les produits surgelés passés par l'Inde, avaient intoxiqué l'ensemble du monde, apporté le virus. Mais les chercheurs chinois, beaucoup plus responsables, revenaient sur l'origine. Le virus vient de la chauve-souris, il n'y a même pas d'ambiguïté. Le problème, c'est que est-ce que la chauve-souris est passée directement à l'homme? C'est pas impossible, une mutation qui peut passer. Parce qu'au fond, dans ce marché considérable, il y a un
le
véritable...
Marché, le marché qui se trouvait à Wuhan.
À Wuhan, un aérosol viral. Et les Chinois eux-mêmes nous ont dit qu'ils avaient retrouvé des particules virales dans le marché. Mmh. Alors, l'hypothèse que je fais, mais elle n'est pas forcément la plus certaine, c'est qu'il y a en même temps un élevage de raccoon dogs, c'est-à-dire il y a 70 millions de ces animaux élevés pour leur fourrure, pour les Russes, pour les pays européens, et qui étaient dans ce marché, dans les mêmes conditions d'enfermement, ils turinent, ils défèquent, ils crachent, ils sont stressés, ils sont pleins de virus. Mmh. Est-ce que le virus est passé par cet animal ou par un autre? Le pangolin probablement est exclu, mais l'origine animale, elle ne fait pas débat.
Il n'y a pas de doute là-dessus, et notamment sur ce marché, Claude.
Est-ce que c'est une maladie de civilisation? Est-ce que cette maladie est directement liée à notre manière d'être, de consommer, de vivre mal avec les animaux?
Oui, c'est une maladie de civilisation dans la mesure où la culture chinoise, les personnes de plus en plus riches ont accès à l'achat d'animaux sauvages qui les passionnent et qui sont très coûteux. Et donc les familles, autrefois, ne pouvaient pas se payer les chauves-souris en éventail, comme ça, vivantes. Et pour les fêtes du Nouvel An, chaque Chinois pouvait payer 150, 200 euros, 300 euros un pangolin. Et ces pangolins sont absolument... D'abord, ils viennent d'Afrique, ils sont raflés. Ils partent dans les ports du Nigeria, puis ensuite ils passent par le Moyen-Orient, arrivent par la Belgique et repartent pour le... Donc il y a un marché international scandaleux, puisqu'ils vident l'Afrique des pangolins. Et en même temps, moi je connais très bien le Laos. Le Laos a des forêts primaires, des forêts comme en Amazonie, dans lesquelles les Chinois ont construit une ligne TGV qui franchit cette forêt primaire. Dans cette forêt primaire, il y a plein de grottes. Est-ce que dans ces grottes, les chauves-souris, non en contact avec l'homme depuis le début, n'auront pas été ramenées par les paysans, aux ouvriers qui travaillent sur la ligne, puis mettre dans le marché de Wuhan, sont des hypothèses vraisemblables. Donc au fond, quand vous dites maladie de civilisation, ça veut dire le train, le TGV,
l'étalement de la ville, en fait.
L'étalement de la ville, les marchés.
L'homme qui empiète.
Le marché qui fait que... Trois pangolins qui se courent après, ça n'a aucune importance. Mmh. Mais quand vous en avez 1000 ou 2000 et que vous avez 30 000...
Ou 17 millions de visons au Danemark.
Mmh. Oui, 70 millions de ces raccoon dogs, de ces chiens vivérins, dont on a encore parlé à l'Académie de médecine. Il y a une sorte de concentration animale qui fait que, au fond, l'homme est un loup pour l'animal, c'est quand même le comble.
Si on refait le fil de cette année, professeur Sicard, et si on refait le fil de cette pandémie et la façon dont elle a déferlé, notamment en Occident, on se souvient au mois de mars d'une forme de sidération, c'est allé très très vite, et une forme de sidération qui a conduit la moitié de la planète au total à finalement décider de se confiner. Cette sidération, elle tient à quoi? C'est un événement qui était impensable, inimaginable, ou est-ce qu'elle est liée à une forme d'impréparation collective?
La préparation ne peut pas se faire quand on n'est pas confronté directement à le problème. C'est qu'on a pris du retard. Et les Chinois sont responsables de ce retard. On a perdu un mois à peu près. Tout a commencé vers octobre-novembre, donc en Chine. Le problème, c'est que quand la maladie commence, elle a cette spécificité d'être invisible. Non seulement il n'y a pas de signes sur la peau, etc., les gens ne toussent pas, la majorité des personnes n'ont rien. Là, peut-être que nous aurions, si vous n'avez pas testé aujourd'hui, un peu de virus.
Nous n'avons pas asymptomatiques.
Nous n'avons pas de symptômes. Donc, on ne peut pas. Donc, c'est une maladie qui est très sournoise, parce qu'elle va commencer à se diffuser alors même qu'il n'y a aucun signe d'identification. Et le retard a été pris. Et effectivement, il y a toujours le sentiment que sont les autres? Les grippes actuelles qui arrivent toujours de Chine chaque année, ben c'est toujours la Chine. Bon, elle arrive en Europe. Bon, ben c'est pas très grave. Et puis, il y a ce sentiment que les Italiens, ouais. Ils ont un mauvais système de santé, alors qu'ils ont un excellent système de santé, peut-être aussi bon que le nôtre, en tout cas. Et donc, chacun a le sentiment qu'il est protégé.
On se souvient qu'effectivement, trois semaines avant, on pensait presque que ça allait s'arrêter en Italie et que les Alpes allaient faire barrière. Évidemment, ça n'a pas été le cas. On l'a vu tout de suite. L'épidémie de Covid-19, eh bien, elle a eu aussi des conséquences terribles pour d'autres patients, Nadia, parce qu'elle a repoussé, cette épidémie, le traitement d'autres maladies.
Oui, on n'a pas fini de payer le prix de cette pandémie. Et en effet, on s'attend aujourd'hui à une surmortalité des patients qui sont atteints du cancer dans les années à venir. C'est ce que déduisent. Alors, il y a eu plusieurs études. La dernière, elle émane d'UniCancer qui relie 18 centres de lutte contre le cancer en France, où sont suivis 25% des malades français. Ils ont donc constaté d'abord que beaucoup de patients n'ont pas consulté pendant le premier confinement au printemps. Déjà parce qu'ils avaient peur de contracter le virus à l'hôpital, le plus souvent encore parce que ils ne trouvaient pas de professionnels disponibles. Les dépistages s'étaient arrêtés pour la plupart. Les cabinets de radiologie en ville ont fermé. Des mammographies ont été déprogrammées. Et ces retards de prise en charge pourraient entraîner aujourd'hui 1000 morts supplémentaires du cancer donc dans les prochaines années et même jusqu'à 6000 décès supplémentaires si on prend en compte les conséquences, les retards du second confinement. Comment et pourquoi est-ce qu'on n'a pas su mener de front la prise en charge des malades du Covid et puis les autres malades, les malades du cancer, les maladies chroniques?
Je crois pour deux raisons. D'abord, il y a une étrange métaphore, c'est que le virus, la Covid, n'est pas au fond mortel en lui-même. Il est mortel par ses conséquences de défense immunitaire. Et on peut prendre sur le plan social la même chose, c'est que ce n'est pas la mort biologique qui a été catastrophique, c'est les conséquences sanitaires sur d'autres maladies qui a fini. Au fond, c'est la réponse qui est plus grave que l'attaque. C'est quand même un phénomène assez étrange, auquel il faudra repenser lors de la prochaine épidémie qui viendra dans...
Le plus tard possible.
Et je crois que cette épidémie, ça a été un sauve-qui-peut. Et le sauve-qui-peut, eh bien, ça ferme les issues pour les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables qui ont besoin... au fond, d'une réponse. Et là, ils trouvaient porte close. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, les personnes les plus précaires, les plus vulnérables, au lieu de trouver les solutions habituelles auxquelles un petit boulot, un petit logement, etc., se retrouvent totalement démunis parce que la société... au fond, il y a un mot qui a été, je trouvais pas si mauvais, c'est l'infoxication des mots. La Covid a tétanisé les neurones des humains.
L'infoxication, c'est-à-dire qu'on est perméable à toutes les fausses nouvelles.
Les fameuses fake news.
Non, mais on est intoxiqué, c'est-à-dire qu'on n'a plus de place pour...
On est saturé d'informations.
On est saturé, et la Covid fait que c'est le sujet de conversation qu'on partage ce soir. Mais au fond, ça empêche un minimum de discernement sur la relation humaine. On s'aperçoit que ceux qui... étaient déjà les plus en situation de pauvreté, précarité, handicap, sont abandonnés.
Alors Didier Sicard, ce système de santé français dont on était jusque-là si fiers, l'hôpital français en particulier, est-ce que cette pandémie, est-ce que la Covid-19 a révélé un certain nombre de failles, notamment peut-être cette bureaucratie excessive? On a beaucoup dit cette année que finalement les médecins étaient beaucoup trop accaparés par des tâches administratives et qu'en quelque sorte, une sorte de bureaucratie très centralisée de surcroît étouffait un peu l'hôpital.
C'est la mise à nu de cette structure. C'est un peu comme, vous savez, en Roumanie, le Ceaușescu, il y avait la façade qui était parfaite et puis derrière, il n'y avait rien, quoi. Et je m'aperçois que depuis 20 ans, la plupart des professionnels étaient désespérés de voir... il y avait le problème des salaires, mais ce n'est pas tellement le problème des salaires, les infirmières surtout, plus que pour les médecins. C'est surtout l'empilement, alors on va dire de façon prétentieuse, de palimpseste, de structure. On est les champions du monde de structure, au détriment des fonctions. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème, on crée un établissement. Un établissement national, régional. Et au fond, chacun est très jaloux à ce moment-là de ses prérogatives, au lieu de réfléchir à la fonctionnalité. Et moi, quand je suis parti à la retraite, les gens m'ont dit « tu as de la chance ». Parce que nous, on est désespérés, on n'en peut plus. Parce qu'au fond, ce métier, et c'est le paradoxe, c'est qu'on a remercié les soignants de leur énergie, mais ils étaient heureux de travailler librement, sans avoir la tutelle qu'on allait leur dire le matin, il faut remplir des papiers. Ça. Quand on voit les infirmières qui vont passer le quart de leur temps à remplir des papiers au lieu d'aller s'occuper des malades, au fond, il y a un aveuglement. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la santé publique, qui est, moi, toujours été une de mes passions de réflexion, est une santé publique qui a... Et au fond, c'est dissolu. Elle est dissoute. C'est un mot qu'on entend tous les matins, Santé publique France. Oui, mais qu'est-ce que c'est que la santé publique ? La santé publique, c'est une fonction. C'est de s'intéresser à la médecine scolaire, à la médecine prénatale, à la médecine postnatale. C'est de s'intéresser à la santé des étudiants. C'est de s'intéresser à la médecine du travail. C'est de s'intéresser à la prévention. Nous, on est le pays du dépistage. Alors là, on est champion du monde. On dépiste tout, mais on dépiste au moment où c'est trop tard. Au fond, on ne prévient pas. Alors. Et je pense que cette mise à nu de notre a été peut-être un réflexe qui va être extraordinairement salvateur, alors, si on sait en tirer les conséquences.
On peut l'espérer, effectivement. Justement, Didier Sicard, il y a cette fracture générationnelle, mais pour avoir une vision peut-être un peu plus optimiste des leçons à tirer de cette année 2020, est-ce que ça n'a pas été au contraire cette année une formidable leçon de solidarité ? C'est-à-dire qu'on a vu précisément... les plus jeunes, les moins menacés directement, on va dire, par le virus, accepter de sacrifier une partie de leurs activités. On a aussi arrêté une bonne partie de l'économie pour protéger les plus faibles, les plus fragiles, les plus âgés. Ça, c'est une année finalement marquée du sceau de la solidarité.
Oui, mais les plus jeunes ont plus souffert que les vieux. Mmh. Au fond, les plus jeunes, eux, c'est leur futur qui a été mis en... Le chômage, ce n'est pas un chômage de 6 mois, ça va être un chômage d'années. Et au fond, leur souffrance, à mon avis, a été passée un peu sous silence. Ils n'avaient plus de ressources. On l'a vu, des étudiants aller chercher dans les banques alimentaires de quoi se nourrir. Bon, les vieux, bah, c'est très bien, mais enfin, ils ont des moyens, généralement, pour se protéger eux-mêmes. Mais moi, je suis plus sévère.
Pas tous, pardon, parce qu'il y a justement de très grandes disparités. Parmi ce qu'on appelle les seniors, il y a des personnes qui sont en grande précarité, qui ont souffert
à
la fois du confinement et aussi des conditions du confinement économique.
En fait, ce qui a manqué, à mon avis, c'est qu'il y a eu un autoritarisme d'État qui a trouvé un message tous azimuts, qu'on soit étudiant, nonagénaire... élèves à l'école, on avait le même message, le masque tracé. Le masque, par exemple. Le masque, il fallait faire des messages d'une intelligence minimale. C'est-à-dire, par exemple, on le met sur le nez. Quand on va au café, on prend son café, mais on remet le masque après. Quand on est en famille, quand je voyais tout à l'heure encore, en venant, 3 personnes qui marchaient avec leur masque, et puis ils se rendent compte, hop, ils retirent le masque pour se voir. Ou bien alors,
mais ça, c'est pas à l'État de les dicter,
il est capable de donner des messages qui sont relayés par des citoyens. Quand vous voyez des gens qui fument et qui envoient la fumée qui va porter du virus dans les nez de la personne à côté, au fond, toute cette petite cuisine qui paraît un peu triviale était fondamentale. On ne s'adresse pas de la même façon à un étudiant, à une personne en EHPAD. Au fond, on a manqué de relais citoyens.
Et en même temps, les citoyens se plaignent souvent qu'on les infantilise. Lorsqu'on leur dit, par exemple, combien vous devez être à table,
ils ne supportent pas. On leur donne des éléments et on leur dit, c'est vous qui allez maintenant expliquer aux autres comment il faut faire.
Quand on voit qu'un pays comme la Corée du Sud a accepté des enquêtes très intrusives, un traçage, mais au total, il y a quelques centaines de morts dans un pays de 52 millions d'habitants. Qu'est-ce qui empêche la France de consentir à une surveillance démocratique pour le bien commun ?
Mais pour les raisons évidentes, c'est que chaque pays a une société différente. Au Laos, il y a eu 0 mort, 18 contaminés. Mais le pays est une prison à ciel ouvert. Personne ne rentre, personne ne sort. Et donc, on voit très bien que même les gens qui arrivent avec un certificat qui ne sont pas porteurs du virus doivent passer 14 jours dans une cellule au bord du Mékong. Donc, au fond, une société... elle peut être incarcérante. Et effectivement, c'est la meilleure méthode.
Mais c'est plus la démocratie.
Et c'est plus la démocratie.
Mais la Corée du Sud est une démocratie.
Pardon ?
La Corée du Sud est
une démocratie. Oui, elle est une démocratie, mais d'accord, je parlais du Laos, là. C'est